18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Vous l'aurez compris, nous sommes passés à l'heure d'hiver. Ravi de vous retrouver, mais le rendez-vous lui ne change pas. Comme chaque dimanche, 18h, 20h sur l'antenne de Beurre FM. Et bien entendu, nous avons une actualité chargée avec, surtout en deuxième heure. C'est la première fois qu'elle parle avec un média à l'étranger. En l'occurrence, la nouvelle présidente de la Fédération algérienne de handball, qui, c'est une première pour le handball algérien, est une femme. Et pour l'instant, il y a ce qu'on appelle quelques petits soucis de protocole sur lesquels nous allons revenir avec l'élu du handball algérien et avec notre consultant Salim Nedjel, mais ce sera à partir de 19h. En attendant, eh bien, la première heure, c'est celle qui est réservée au football et à une actualité extrêmement chargée.
Jusqu'à 20h, Fou de sport sur Beurre FM.
Alors, quand on parle d'actualité chargée, forcément que ici à Beurre FM, nous avons la chance d'avoir un druide, un magicien, ou je dirais l'homme qu'on écoute avec beaucoup d'intérêt. La semaine dernière, il a poussé sa gueulante en disant non, la souveraineté d'un pays ne se négocie pas. Et donc, c'est peut-être que sa parole a eu un effet d'une véritable bombe. Cet effet a bien marché. C'est notre coach national. Bonsoir Nasser. Attends. Ah ouais, tranquillement là. Vas-y.
Tu fais que des galanteries, mais bon, non.
C'est une vérité qui a éclaté cette semaine.
Ça coule tellement de sources. Et je veux dire, c'est pas, faut pas être sorti de HEC pour inventer un discours comme ça. Simplement, c'est que quand tu es dans le milieu du football, quand tu connais l'importance du football, quand tu vois ce que fait l'Algérie depuis quelques années, ou les championnes d'Afrique, ou commence à se relever un peu la tête dans l'eau, même si on y est retourné. Mais le fait que tu sois sorti, tu te rappelles, on en parlait, il est important de surfer sur cette vague pour pouvoir créer comme ça des réseaux autour de toi, dans l'entreprise, dans le business, pour que l'image de l'Algérie soit là. Tu vas pas te retrouver, toi, 3 ans après, aller jouer un match amical à Rouen, ou je sais, j'allais revoir.
Angers, bon, ouais. On va en parler tout à l'heure aussi.
Ouais. Et tu te rends compte que tu te dis comment tu vas vendre une identité comme la nôtre, c'est un pays comme le nôtre, avec l'histoire qu'on a, aller se brader comme ça dans des lieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce...
C'est ça que j'ai aimé en toi. Tu as dit ou c'est chez nous ou c'est chez eux.
Ah, c'est clair.
Et finalement, ça va se jouer à Göteborg.
Ah, très bien.
C'était ça la décision qui a été prise par la Fédération algérienne. Trouver un accord avec la Fédération suédoise que le match ait lieu en Suède.
Magnifique.
Voilà. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, on avait perdu 2-0 justement contre les Suédois. C'était Klasin Gesson qui nous a claqué 2 buts. C'était les années 90 ou 89 par là.
C'est magnifique.
Donc ça va se jouer en Suède.
Magnifique. Et après, quand tu es dans des deals comme ça, tu vas voir que les pays comme l'Afrique, le Cameroun, le Côte d'Ivoire, eux négocient, parce que eux, c'est plein d'agents, il y a tout un business de, c'est un truc de fou. Ils vont vendre leurs matchs en Angleterre, dans des stades, dans des clubs. Et après, la fédé de leur pays, ils s'en foutent. Mais nous, non, tu peux pas. L'Algérie ne peut pas se vendre. Aujourd'hui, c'est terminé. Elle a un tel impact, une telle image, que tu ne peux pas te brader et partir comme ça. Impossible. Sinon, tu vas te... Voilà, je sais qu'on ne va pas dire les mots, mais...
Oui, on l'a compris.
Voilà.
Bon, et puis, pareil, il a passé sa semaine à tellement fouiner dans les arcanes du sport et du foot.
C'est même raté du poids.
Des vertes et des pas mûres, à tel point que ça lui a causé vraiment... Non, c'est plus que des motettes, ça lui a fait des rougeâtres un petit peu partout sur le front, parce que il a eu une espèce de montée d'adrénaline, de ras-le-bol.
De prendre le métier, là.
Oui, de ras-le-bol footballistique, etc. Bon, c'est le petit bijou aujourd'hui que nous avons à la radio. Il s'appelle Fodil.
Ben, bonjour Mohamed, bonsoir coach déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos chers auditeurs. Merci pour cette formidable introduction, ça me touche droit au cœur. Et ça fait plaisir aussi d'être entouré par
des druides.
Non, je dirais par des cyborgs du journalisme.
Mais bon, c'est notre ami.
Toi aussi, coach, quand même.
Mais n'empêche que dimanche dernier, on avait abordé ce sujet de la domiciliation des matchs, et lorsqu'on avait parlé, oui, Le Havre, Marseille, etc. et tout, et puis coach avait dit non, ça suffit maintenant. Ou c'est chez nous, ou c'est chez eux.
C'est clair.
Voilà. Et à la fin, la décision a été prise par la Fédération de football. Oui, le match aura bel et bien lieu le 19 novembre, je crois.
Exactement, oui, à Malmö.
À Malmö. Voilà, mais pas à Göteborg, mais à Malmö. Le match qu'on avait perdu 2-0, c'était à Göteborg.
Si tu as un minimum d'intégrité avec toi-même, avec ton pays, tu ne penses pas que ces choses doivent se passer dans le bon sens ? Je joue chez toi, tu joues chez moi. Si maintenant tu déplaces un machin, ça s'appelle un tournoi, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Coupe d'Afrique, on va jouer là-bas. Mais nous, au niveau où tu penses que l'Algérie peut être, elle se doit, elle, d'avoir ce comportement-là, vis-à-vis de tout le monde, oui, voilà, nous allons jouer à Göteborg. Ah, ça fait bien, là. Tu me dis, tu vas aller jouer au Havre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, mais qu'est-ce que c'est ce Bins-là? On en est encore là? En 2023, on en est là? À quoi ça sert que ces garçons-là ont gagné la Coupe d'Afrique? À quoi ça sert d'aller gagner des titres et de redorer un blason que tu as dans le milieu du football où on commence à te lire et à t'estimer et à avoir peur de toi? Et là, aujourd'hui, en faisant ça, tu dégringoles dans l'esprit des gens. Tu dis, l'Algérie va jouer à Rouen, ou va jouer à Quevilly, ou va jouer au Havre, ou à Angers, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais dans quel monde on vit, là? Sérieusement, quel monde on vit? Ben, alhamdoulilah, tu vois, moi, je peux remercier les gens de la FAB d'avoir eu la lucidité, d'avoir compris ce qui a dû se passer derrière.
Ben, voilà, tant mieux. Allez, le sujet suivant.
Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
Eh ben, c'est la petite colère de Guardiola vis-à-vis de Riyad Mahrez. Ben, ça fait deux matchs et deux pénaltys qu'il loupe. Ça commence à. En plus, j'ai l'impression que. Moi, j'ai bien regardé. T'as l'impression qu'il n'y a pas de conviction dans ses frappes.
Très bien. T'as tout dit là.
Manque de confiance énorme aussi. Manque de confiance aussi de la part de ses coéquipiers. Parce que on voit aussi, avant juste qu'il cause le pénalty, bon, avant que le défenseur adverse du Borussia Dortmund cause le pénalty où il laisse sa jambe traîner juste après le dribble de Riyad Mahrez, on voit aussi les joueurs de Manchester City qui vont voir Riyad Mahrez pour essayer de l'encourager. C'est ce qui s'est passé ensuite quand il a exécuté son pénalty. Ça se voit que c'est un joueur qui est en manque de confiance. En manque de confiance, que ce soit sur le terrain, mais je pense qu'en dehors du terrain aussi, parce que si ce n'était pas le cas, ses coéquipiers ne vont pas aller le voir avant l'exécution de son pénalty. Il faut savoir que aussi Riyad Mahrez, la saison dernière, c'était, je crois, 12 pénaltys transformés.
Oui. Mais quand on dit tout est lié, tout a un sens, tout a un bon sens. On est en train d'expliquer que Riyad Mahrez est en train de, pas s'éclipser, mais on est en train de le voir moins. Pourquoi on le voit moins?
On le voit moins
parce que tu as notre ami Aslan qui est arrivé.
Voilà,
et lui, il prend tout.
Mr. Haaland.
Voilà, il marque, il fait passe D, il marque, il élimine tout. Il lui reste juste les pénalties. Et tu as vu, Mahrez, il est devenu tout petit. Comment? Alors donc, où tu as la réaction du grand joueur et tu vas voir arriver, ou tu as vraiment un vrai coup de fatigue où on ne connaît pas les contours extérieurs de sa vie, de son parcours, et il va se remettre en route. Tu ne peux pas avoir Mahrez qu'on a vu il y a pendant des années être sublime comme il l'a été. Et aujourd'hui, là, moi, je pense que c'est un passage.
Oui, comme n'importe quel grand joueur.
Voilà, hein. Oui, oui. Il ingurgite à l'arrivée d'Aslan. C'est tout. C'est ça l'histoire.
Il faut regarder aussi techniquement et sur le terrain. La saison dernière, par exemple, Riyad Mahrez pouvait évoluer en 9, en faux 9, et cette année, non. Manchester City, ils ont un attaquant.
Faux 9, Mahrez.
L'année dernière, oui. Si on regarde bien, lui et Foden, l'année dernière, ils évoluaient de la même manière.
Dans le couloir droit.
Non, l'année dernière, il y avait des matchs où il était en faux 9.
Ouais, peut-être. Toi, tu as fait des essais, Guardiola, mais bon, si je suis.
Et voilà, mais il permutait aussi entre lui et Foden. Et cette année.
C'est De Bruyne qui jouait plus en 9 et en faux 9. Et même Mahrez, j'ai toujours vu à droite. J'ai jamais vu ailleurs.
L'année dernière, moi je l'ai vu, en tout cas, il était de temps en temps, il était sur le front de l'attaque.
Ouais.
Il permutait avec Foden. Et cette année, il faut savoir aussi que sur son poste, il y a deux joueurs qui reviennent en force. Nous avons Bernardo Silva qui peut aussi évoluer dans son poste. Ça. Il y a aussi Foden et Grealish qui revient en forme. Il faut savoir aussi que Grealish, c'est le joueur le plus cher de Manchester City. Et cette année, il lui donne plus de temps de jeu.
Ils n'ont pas ce qu'il y a Mahrez. Ils n'ont aucun. Il y a Foden qui est très intéressant, mais c'est du brut encore. Tu as, comment il s'appelle, l'autre gaucher là, qui est à Monaco?
Bernardo Silva, ouais.
Tu sens qu'il lui manque quelque chose. Tu vois, il a quelque chose qui, tu sais, dans le jeu, dans la puissance, dans la percussion. Il y a Mahrez qui a tout ça. Il a tout ça, Mahrez. il a tout ce qu'il faut. Il a son pied gauche, il a l'accélération, il a la vitesse.
Il a besoin aussi d'avoir la confiance de son entraîneur.
Il marque, il a le coup de pied arrêté, il a le pénalty, il a tout ce qu'il faut. Après, il faut le laisser gentiment, bah, il va se poser. Et dans sa stratégie, notre ami Guardiola, bien sûr, qui lui met un coup de pression pour le réveiller. Pour dire, écoute,
je pense que ça va.
Et en plus, il accepte pas que tu loupes un pénalty dans un match aussi important que la semaine dernière.
Exactement, ouais.
Et tu loupes, et ça reste à travers la gueule. Tu peux faire plein de conneries dans des matchs. Ouais. Mais des choses où les grands joueurs ne se loupent pas. Karim Benzema ne s'est jamais loupé à des moments importants pour relancer le Real Madrid. Penalty ou pas, il était là.
Et
là,
ça si, il y avait un match où il a loupé deux pénaltys consécutifs dans le même.
Oui, mais
dans
c'est pas des moments clés du championnat. On les connaît, les grands matchs clés. C'est quand tu joues Séville, quand tu joues Barça, quand tu joues Valence, c'est ces clubs-là qu'on sait que quand tu joues Madrid, l'Atlético, ces moments-là, ouais, des moments bien précis. Et on l'a vu, là, j'ai revu un scénario sur Karim il y a 2-3 jours. Et il parlait bien de ça. Et Karim, il ne s'est pas loupé une fois. Et ça, c'est du vrai, il ne relève pas, ils le savent. Tu sais, il y a des moments, dans des matchs importants, il y a des pénalties, des coups francs, des situations qui t'amènent. Il y a des mecs qui loupent.
Oui.
Et t'as des mecs qui loupent pas. Ils te font remonter ton club et ton équipe. On l'a dit l'année dernière, Karim Benzema, c'est lui qui te fait gagner la Ligue des Champions. S'il y en a un autre, faut qu'on me le dise, je ne l'ai pas vu. Ouais. Il y en a vu Karim l'année dernière.
C'était lui qui avait porté le Real Madrid. Mais quand on revient à Mahrez, il faut avoir aussi la confiance de son entraîneur. Et je pense que.
Mais il a refait signer, il l'a fait re-signer 3 ans.
Il l'a fait re-signer, mais il faut voir ce qui se passe juste après. Il y a l'arrivée de Lande, d'Alonde.
Oui,
Mais la preuve, c'est que chez les grands clubs, regarde bien ce qui se passe. Est-ce que tu as vu le calendrier? C'est un enfer.
Oui, bien sûr.
Donc si tu n'as pas,
il aura toujours des matchs. Il aura des matchs pour regagner la confiance de son entraîneur.
Et si tu n'as pas, non, mais c'est pas ça. C'est que si tu n'as pas un effectif riche, tu ne tiendras jamais sur une saison. C'est impossible.
Oui, sauf que Riyad Mahrez n'est pas un joueur titulaire indiscutable à Manchester City cette saison.
Il n'y a pas de titulaire indiscutable à Manchester.
Non, non.
Il fait tourner.
Si, tu as par exemple un De Bruyne ou un Bernardo Silva qui sont tout le temps titulaires. Rodri, par exemple, qui est tout le temps titulaire.
Non, mais sur les 11, on va dire, tu as peut-être 5-6 qui sont titulaires, mais le reste,
il tourne.
Heureusement d'ailleurs, mais sinon, les mecs, ils vont être cramés.
Il tourne. En plus, Guardiola, c'est un entraîneur qui n'a pas tendance à faire des changements au cours de la même rencontre. Hier, par exemple, il n'avait pas consommé ses 5 changements.
Oui, c'est pas grave.
Ouais, mais ça, n'oublie pas, faut dire, c'est que dans le championnat anglais, tu as beaucoup de joueurs qui vont arriver à la Coupe du Monde cramés.
Mm-hmm. Oui, je sais.
Nasser m'a toujours expliqué dans cette émission que le moment le plus compliqué dans le football, c'est la période novembre. La plupart des clubs ont repris leur championnat à partir du mois d'août. Donc quand tu fais déjà août, septembre, octobre, tu arrives à novembre, et sachant que la Coupe du Monde, donc, c'est le 20, 4 mois, tu as des joueurs qui commencent physiquement à être cramés. On le voit à travers... pas que l'équipe de France, mais beaucoup de sélections qui ont des joueurs aujourd'hui qui sont quasiment sur le carreau.
Faut bien comprendre, et c'est là-dessus qu'il faut dire, peut-être n'a pas le recul nécessaire pour comprendre bien ça. Le problème, c'est qu'il y a des animations dans le jeu. C'est-à-dire que tu as des clubs qui génèrent un championnat de 10 mois, 11 mois, à plus de 75-80 matchs. Quand tu gères ça, tu vas te dire que moi, mes joueurs, tu dois faire ce qu'on appelle une tournante, faire tourner les joueurs, faire des, je sais plus comment les termes qu'ils utilisent. Mais le problème, c'est que
un turnover.
Et quand tu as les joueurs que tu as aujourd'hui à City, tu as pratiquement les meilleurs joueurs du monde qui sont là, on te demande d'être Mahrez titulaire, je dis non. Un, c'est impossible. Deux, vu ce qu'on lui demande, c'est plus possible. Mais comme je te l'ai dit la dernière fois, vu ce que j'ai vu de lui pendant les deux derniers matchs où il n'y a aucune prise de responsabilité, aucune prise d'initiative personnelle de sa part qui faisait la différence, il le fait plus. Il prend le ballon, il met derrière. Là, tu vois, s'il y a pénalty, tu loupes. Allez, viens te mettre de côté. Il y a quelque chose qui se passe. Après, il y a des tenants et aboutissants qui sont au-dessus. Après, il faut bien comprendre que notre ami Pep Guardiola, il met un système de jeu où tu rigoles pas. Hein. Tu te mets à droite, tu bouges pas. Tu te mets à l'aile gauche et tu bouges pas surtout. Tu ne bouges pas, tu rentres pas dans le jeu, tu vas pas chercher le ballon. Impossible. T'attends qu'on te donne. Et quand on te donne, t'as un bloc devant toi de 5-6 joueurs et tu remets. Et tu dis, et je fais quoi là? Et ben, à un moment, tu dois trouver, toi, la faille. Trouve la faille, mon fils. Et là, pour l'instant... je sais pas si on doit analyser ça, mais Mahrez, il a quand même sur son dos l'élimination de l'Algérie en Coupe du Monde.
Je pense que psychologiquement, elle y est encore. Ouais.
Tant qu'on la finira pas, cette Coupe du Monde ne fera pas le deuil, il y a encore des joueurs algériens qui vont souffrir. Même si j'ai vu Belaïli pas trop mal aujourd'hui. Ils ont fait quoi? Ils étaient 1-0 avec Auxerre.
Ça a fini par 1-0 pour Auxerre.
D'accord. J'ai vu, t'es pas trop mal. Hein. On voit, il est en train de se reconstruire de tout ce qui s'est passé. Mais c'est un drame, attention, ce qui s'est passé. Quand on utilisait les mots, c'était un drame, ce qui s'est passé, attention. Hein. Ça va laisser des traces longtemps, mais longtemps. C'est pas fini. Hein. crois-moi, c'est pas fini cette histoire-là.
Très bien, on va marquer une première pause, et puis vous allez voir, dans un instant, on va revenir sur le nouveau délire des supporters algériens.
Foot de sport, revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Alors, il y a le délirium. Donc, c'est une espèce de grande bassine dans laquelle on délire à fond. Et ce délirium, vous le connaissez tous, c'est la nouvelle annonce qui concerne l'espoir que l'équipe d'Algérie joue la Coupe du Monde à la place de la Tunisie. Oui, parce que en Tunisie, ça va pas du tout. La fédération, elle a quand même des problèmes avec le pouvoir politique. Vous savez tous comment ça se passe. Lorsque le politique se mêle du football, surtout au niveau des instances internationales, la sanction peut être très violente, c'est-à-dire l'exclusion pure et simple. Donc, il faut savoir que la FIFA a donné un délai très court à la Tunisie pour avoir des certitudes quant à la non-ingérence des autorités politiques dans le football tunisien, faute de quoi on va désigner, même à la dernière, quitte à le faire à la dernière minute, on va désigner un remplaçant à la Tunisie. Alors, bien sûr, tu as l'Italie qui jubile, tu as l'Algérie qui jubile, et puis, alors, ça veut dire que tout le monde maintenant se bat pour cette place.
Dans l'Italie, déjà, non.
Mais vous y croyez, ça, vous?
Non, mais attends, l'Italie, là, j'y crois pas du tout. Oui. Et ensuite, cette histoire, elle est hallucinante. Déjà, premièrement, ça ne sera pas l'Algérie qui va être repêchée. En cas où la Tunisie est exclue, ça sera le Mali.
La logique voudrait que ce soit le Mali.
Et pourquoi?
Bah parce que le Mali, c'est l'adversaire de la Tunisie.
Dans le même groupe.
Mmh. Et le Mali, elle était deuxième dans le groupe, et ça veut dire que c'est elle qui va se qualifier. Bon, pas dans le même groupe, c'est le match d'appui.
Oui.
Moi, je crois pas, c'est des fanfaronnades, ça.
Après, j'y crois pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec
ce que tu dis. Tu te rends compte le feu qu'il va y avoir chez eux en Tunisie?
Oui, non, mais
ils vont tout geler.
Je te parle de délirium, on est d'accord.
Ah oui, oui. C'est encore des choses, c'est encore le temps qui est pressé sur les fédérations que les politiques, que sont la FIFA, utilisent pour mettre la pression à ces pays qui sont pas stables. Alors, ils sont pas stables politiquement, la Tunisie.
Oui.
Bon, mais en deux minutes, sur un tour de table, ils vont régler ça. Là, ils jouent avec le feu, et après un moment, ils vont dire, bon, c'est bon, on se remet dans le cadre. Tu crois que le peuple va accepter en Tunisie que son pays n'y va pas pour une histoire de coucou s'amuser dans un bureau, là? Mais ça va pas, non.
Et voilà.
Ouais, c'est sérieux, les gars. Ouais, c'est sérieux.
En tout cas, moi, j'y crois pas du tout, comme je t'ai expliqué. Ouais, L'Italie, bon, en cas où cette histoire, par exemple, est véridique, mais ça m'étonnerait même pas dans les rêves les plus fous. Hein.
Déjà, après, il ne peut pas venir à l'Italie parce qu'il te faut tes 5 Africains.
Voilà, exactement.
Donc,
l'Italie n'est pas encore peut pas récupérer cette place.
Mais attention, pourquoi je dis ça? C'est parce que l'Italie, on a fait la demande.
Oui, bien sûr. Bien sûr qu'ils vont faire la demande, bien sûr.
Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça s'est passé cette semaine. L'Italie a fait la demande. Et c'est par le biais de son représentant à l'ONU, à New York, qui a fait cette annonce.
Et le communiqué de la FIFA aussi est disponible sur tous les sites d'information, comme quoi, où ils menacent la Tunisie. S'ils n'apportent pas une réponse brève dans les délais qui leur ont été transmis, la Tunisie risque d'être exclue de la Coupe du Monde. Quoi, ça m'étonnerait, c'est juste des menaces. Mais
il faut parler des bavards, tout ça. Ça va donner du grain à moudre.
Il reste 20 jours pour le début de la Coupe du Monde, quand même. Ils ne vont pas essayer de créer des histoires. Non. Sachant que c'est une Coupe du Monde tellement décréée, ils ne vont pas quand même.
Et en plus, attends! Coupe du Monde dans un pays arabe, tu élimines un pays arabe.
C'est une Coupe du Monde déjà décriée par les médias. Oui. Ils vont pas quand même ajouter un autre scandale.
Non, je trouve que les médias, là maintenant, c'est moi qui parle. Je trouve que tous les médias là qui se disent qu'ils ont la bonne conscience des droits de l'homme, ça suffit. Parce que des Coupes du Monde, elles ont été organisées un peu partout. Regardez, le seul homme qui a tenu tête, et ça, je défie quiconque de me le dire. Il y a eu l'histoire de son fils qui a été kidnappé. C'est Johan Cruyff en 78, quand il a refusé de jouer en Argentine la Coupe du Monde 78 sous la dictature du général Videla. Donc l'Argentine a organisé la Coupe du Monde avec la dictature de Videla. Faut savoir comment on appelle ça. Regardez ce qui s'est passé, comment la Coupe du Monde a été donnée à l'Allemagne, comment la Coupe du Monde, comment on l'a retirée à l'Afrique du Sud, comment elle a été donnée au Brésil, le pays n'était pas économiquement
stable.
Mais la Russie, on lui donne la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques de Sochi et les Jeux d'hiver. Et quand dès que ça arrive, ça change de continent. Eh ben non, ah oui. Et ben, est-ce qu'on a le droit de boire la bière? Est-ce qu'il y a des boîtes de nuit?
Non, mais c'est pas ça, c'est que. Mais Mohan, par exemple, quand tu vas
au foot.
Non, mais quand tu vas dans un pays, automatiquement, il faut s'adapter selon les lois du pays.
Oui,
mais
normal.
C'est tout à fait normal.
Oui,
chaque pays a ses propres lois et ses propres directives. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils sont restés 12 ans pour commencer à critiquer cette Coupe du Monde. Si, par exemple, il fallait critiquer cette Coupe du Monde ou critiquer l'organisation, l'attribution de cette Coupe du Monde en 2010.
Carrément. Mais pas
en 2022, mois avant le début de la compétition.
On est d'accord, ouais, je suis d'accord.
Bon, et c'est de l'hypocrisie totale. Et en plus, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on retrouvera ces mêmes personnes qui ont critiqué le Qatar présent en Coupe du Monde
parce qu'elles,
avec des invitations.
Elles ont, bien sûr, elles ont ce qu'on appelle tout frais payé. Ils vont avoir les hôtels, ils vont avoir les centres de presse, ils vont avoir tout en ultra moderne. Ils vont passer un mois aux frais de la princesse. Mais c'est connu.
Oui, c'est ça. Mais voilà, bon, on a essayé de traiter le sujet de la Coupe du Monde, Mohand. Mmh. Il y a deux semaines, j'ai sollicité tous les journalistes de Beansport, de l'équipe et consorts et tout, pour essayer d'intervenir sur ce sujet-là. Aucun journaliste n'a donné suite à ma demande.
Mais oui, parce que.
Et je te laisse le soin d'imaginer le refus de ces personnes-là.
Ben oui, on a compris pourquoi.
Moi, quand j'écoute comme ça, je dis, mais vous avez toujours pas compris le monde de l'entreprise. C'est ça le monde des affaires,
oui,
du business.
On l'a compris.
Ça veut dire que.
Non, en Kabyle, ça s'appelle Ararom.
Oui, on l'a compris, bien sûr. Ce sont des gens qui touchent des milliards grâce au
Qatar.
Non,
c'est pas ça que je veux dire. C'est pas mon sujet. Il est pas là. C'est pour te démontrer comment le mécanisme se met en marche. C'est-à-dire que même le Qatar qui n'aura jamais dû y être depuis longtemps, puisque déjà, bref, il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'aura jamais dû y être. Mais par rapport au business, et par rapport à l'argent que détient ce pays-là, comme l'Arabie Saoudite, ces gens-là sont capables d'acheter une Coupe du Monde. Ils te le démontrent là. Tu dis ce que tu veux, mais la puissance financière, elle est là. Elle est chez eux. Donc voilà, maintenant, t'es obligé de faire avec. Et quand tu craches sur la soupe, quand tu sais que le Qatar paye le déficit de la France ici, faudrait quand même qu'on leur dise. Enfin, qu'il y en a un qui se lève et qui dit, voilà, monsieur, vous savez que le Qatar paye le déficit de la France. C'est Sarkozy qui s'en occupe. Et personne ne parle. C'est pour remettre mon appel. Sinon, moi, je serais Qatar. Je dis, écoute, on se retient. Mais toi aussi, je vais te retirer les billes et qu'on te donne. C'est pas possible.
Bon, avant de prendre les auditeurs du côté du standard, je vous demande de patienter parce qu'il me reste un sujet à balancer un petit peu avant. Coach, t'as pas reçu un coup de fil?
Non.
Ben, c'est bizarre.
Coach, on t'a pas sollicité par hasard?
Mais si, quand même. Il y a normalement, quand tu lis toute la presse, appel d'offres, ceci, un directeur technique national, je me suis dit, c'est pas. Peut-être qu'on a appelé Nasser.
Non. Tu les connais pas, non. Franchement, tu les connais pas. Moi, je les connais bien.
Mais coach, quand tu dis que tu les connais pas, hein, nous, on aimerait bien les connaître ici. Les auditeurs aussi aimeraient bien les connaître.
Oui, c'est comme Fantomas. T'attends. Il y a tout un esprit chez nous. Tu sais comment ça marche. Il faut faire partir du cadre. T'es pas dans le cadre. T'es dans le bord du cadre. T'es pas dans
c'est
le cadre.
C'est quoi le cadre, plus exactement,
C'est la capacité à intégrer tes dires et ce que tu as envie de faire. Eux, ils ont besoin d'un cahier des charges extrêmement pointu. Et comme on est aujourd'hui, au jour aujourd'hui, où on est dans une espèce de marasme, parce qu'il faut quand même vous le dire, on est quand même dans une bisonnerie de folie. Tu es loin. Moi, j'ai vu les articles qui sont passés derrière. Mais c'est une catastrophe, ce que tu entends. Ces mecs-là sont complètement hors sujet. Ils sont, non, mais c'est pas
parce que ton nom est ressorti récemment.
Ah bon?
Ton nom est ressorti récemment dans deux articles.
Ah bon? Deux? Ah ben, putain, j'ai pas vu. Tu vois, j'ai pas l'alerte. Alerte-moi, j'ai pas. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est que tu fasses avancer le jeu public. Le jeu, c'est que tu leur dises aux gens, regardez ce que vous faites, regardez, moi, je suis dedans, j'y suis plein, je vois ce qui se passe, mais c'est un truc de fou.
Et qu'est-ce qui se passe, coach? Qu'est-ce qui se passe plus exactement? Les auditeurs souhaitent savoir ce qui se passe dans la fédération algérienne.
C'est pas politique, lui. Il parle de l'école, les gens, le politique. Les Français pensent à tes.
Non, mais nous, on souhaite savoir ce qui se passe.
Oui, parce que tu veux
savoir. Si on demande à nos auditeurs d'appeler pour voir.
Mais sur le plan technique, c'est très compliqué de t'expliquer parce qu'il faudrait beaucoup d'heures. C'est compliqué. Simplement, il y a un grand changement qui existe depuis des années. Et nous, on en est encore au-dessus. Quand tu écoutes les discours des entraîneurs, là, en conférence de presse, après match, tu écoutes leurs propos, là, tu vas comprendre ce qui se passe. Tellement, ils savent même pas. Ils donnent des mots qu'ils ont lus, qu'ils ont entendus par les journalistes. Ils répètent des mots. Mais ils savent même pas ce qu'il y a à l'intérieur du contenu. faut savoir que le football a complètement changé, mon ami. C'est fini, le football. Ton papa est un moment, c'est fini, ça. On est sur des autres données. On a des rapports avec les joueurs qui ont complètement évolué. C'est fini, ce temps-là. Et nous, on en a encore à nous dire, il faut gagner. Il faut gagner. Tu gagnes avec, si ton projet est cohérent, si t'es capable de mettre un plan de jeu en place, si t'es capable de mettre des choses extrêmement pertinentes dans ton projet. Et de l'amener à bout. Jusqu'au bout.
Et si on te sollicite, coach,
non, mais c'est bon. Ça fait la 30e ou 50e qu'on m'a raconté. Et si on te sollicite. Non, il n'y a pas de sollicitation, il n'y a rien. Là, je suis en train dans le débat, je rentre dans le débat. Je n'ai peut-être pas créé le débat, mais je relance. Je leur dis, voilà, si je dois faire des choses, si je dois dire des choses, je dois dire mes vérités. Et mes vérités, c'est ce que je parle. La formation, la détection et la sélection. Détection et formation. C'est les deux qu'il faut remettre en place. Les deux. Sinon, t'es mort. Je regardais cet après-midi, je regardais Nigeria-Allemagne. C'était quoi, c'était en quel, quoi? Ils ont gagné le Nigeria au penalty. C'était en direct, en plus, le match. Et, j'ai vu le Nigeria. Ah, punaise. Et ils menaient 3-0, le Nigeria. Équipe féminine, hein.
Tu parles de la Coupe du Monde, là, non?
Ouais. Ouais. 3-0, ils menaient, hein. Le Nigeria. Ils sont remontés à 3-3, les Allemands. Et le Nigeria a quand même gagné au penalty. Mais là, tu vois des choses intéressantes. Ah, tu dis, ah, d'accord. Et l'entraîneur, c'est un petit Nigérian.
Mais attention, le Niger a toujours été un grand pays formateur.
Oui, je sais. Il y a 240 millions d'habitants.
On est d'accord. Ouais.
On est dans les trucs. Ouais. Mais bon, tu sens que, aïe, ça vient.
C'est l'équipe nigérienne des moins de 17 ans qui a décroché le bronze.
Ouais, voilà. Mais c'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal du tout, hein.
Ça joue.
Ah oui, à 3-0, tu mènes devant l'Allemagne. En suivi de formation, on appelle ça. En contenu. À 17 ans, armes des gars, tu vois les joueuses. Et là, tu vois des choses, hein. Et là, j'ai envie de dire, on va pas pouvoir se cacher comme ça pendant des années, des mois, c'est fini ce temps-là. Parce que tout se sait aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont là, tout le monde parle, tout le monde bascule, donc tout va savoir, tout le monde va mettre le doigt dedans. Mais le problème, c'est qu'il manque un peu le vocabulaire à certaines personnes à des postes importants pour expliquer ce qu'ils font. Faut nous expliquer qu'est-ce que vous faites. Hein, c'est ça?
Très bien, merci, coach. Donc, on va prendre un premier auditeur. Ensuite, bien entendu, notre consultant, Selim, qui vient d'arriver. Il va le temps de que notre Fodil aille le récupérer. Et on commence d'abord par le premier appel, on marque une pause. Et puis, à partir de 19h, je vous l'ai dit, on va aller direct sur Alger, parce que même au niveau du handball, ce qu'on appelle l'un des sports les plus populaires en Algérie après le football, pour une première fois, une présidente, c'est sur une élection rocambolesque qui n'est pas encore validée par le board international, par l'IHF. Et elle va nous expliquer tout ça, pourquoi. Ce sera à partir de 19h. Tout de suite, le standard.
Fou de sport. La semaine sportive.
Bonsoir.
Allô, bonsoir, Salam.
Salam.
Bonsoir.
Alors, à qui est-ce l'honneur?
Nordine,
tu nous appelles de
Chevilly-Roi.
Ok, Nordine, on t'écoute, bienvenue.
Merci de me prendre l'antenne. Concernant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, tout ce qu'on entend de tous les préparatifs, toutes les critiques, on n'a pas attendu qu'il y ait 6500 morts concernant les stades. Hein. Il y a eu combien de morts, à votre avis, pour leur construction de leur gratte-ciel, à votre avis, avant?
Ah, bah voilà. Question bien posée, hein, c'est vrai.
Voilà, non, mais question bête, hein, parce qu'il y a vrai, le Qatar, il y a aussi l'Arabie Saoudite, il y a le Koweït, il y a le... Il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Qatar, il y a toute la cliche, hein.
Après, ouais, oui, vas-y, moi, Nordine.
Je t'en prie. Vas-y.
Non, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de Coupe du Monde, bah, écoute, chaque
pays. On parle beaucoup de 6500 morts pour la construction des stades.
Oui.
Mais avant, il y avait déjà des morts.
Bien sûr.
Déjà, pour construire un stade de foot, il y a des morts. Ouais. Alors, imaginez pour un gratte-ciel.
Oui, c'est vrai.
Parce que j'y suis allé au Qatar.
Oui.
Je suis allé au Qatar, comme j'avais déjà dit à l'antenne, je suis déjà allé au Koweït, je suis déjà allé au Qatar, et j'ai vu Dubaï. Mm. Donc là-bas la main d'œuvre, c'est de la merde avec un M majuscule.
D'accord.
J'ai vu les pauvres migrants, c'est qui? Ils font Fatou Jumura, ils travaillent, et ils leur prennent leur passeport, et la moindre connerie, ils les renvoient dans leur benne manger du sable. Ah, j'y suis allé, je les ai vus. Leurs conditions de travail, c'est inadmissible. C'est, enfin, là, il y en a beaucoup, ils vont avoir des comptes à rendre.
Ouais, après, c'est vrai que moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour que les gens se focalisent uniquement sur la Coupe du Monde, quoi. Il y a, voilà, ça, je suis d'accord avec toi. Pas que
mais ça, c'est les médias. Oui. C'est les médias. Ouais. Si les médias, ils parlent de la Coupe du Monde et 6500 morts, les gens, ils vont se poser un petit peu la question, mais après, ils se disent, ils s'en foutent.
Oui.
C'est les musulmans qui meurent. C'est les musulmans qui gèrent, donc c'est pas leur problème.
Ouais.
Et en même temps, il y a tellement de choses à dire. Que la Coupe du Monde, ça représente 80% du chiffre d'affaires de la FIFA.
Eh oui.
Donc vous vous rendez compte.
Eh oui. Ah oui, la Nordine. Là tu l'as compris. Voilà.
Je l'ai compris. C'est pas je l'ai compris, je le sais.
Ben oui, parce que on ne touche pas au business de la Coupe du Monde. C'est la poule aux œufs de diamant, passe-moi l'expression. Hein.
Pourquoi à ton avis? Je me permets de te tutoyer. Pourquoi, à ton avis, on a appelé Arsène Wenger, l'économiste, pour essayer de trouver une astuce pour pouvoir faire une Coupe du Monde tous les deux ans?
Oui. Ah oui, oui.
C'est du business.
Parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est pour ça.
Non. Ils n'ont pas besoin d'argent. De l'argent, on en a jamais assez et on en voudra toujours plus. C'est pas pareil.
Non, c'est pas une question de
business. Je me permets.
Mais c'est ce qui les intéresse, hein? Nordine, c'est l'argent. C'est
oui,
ce qui
d'accord,
les intéresse.
Mais c'est pas un besoin d'argent, c'est une soif du pouvoir et de l'argent. C'est pas pareil. De l'argent ils en ont, mais ils en veulent toujours plus.
Bah tu sais, celui qui est milliardaire, il veut doubler ses milliards.
Ah ben bien sûr, l'argent.
FIFA est toujours dans le besoin parce que si par exemple tu leur parles et tu leur dis est-ce que vous avez d'argent, ils vont pas te confirmer comme quoi ils en ont. Ils vont te dire non.
Jamais personne te dira. Mais tout le monde te dira est-ce que t'as de l'argent. Non, j'ai pas d'argent. Donc
ils ont besoin. Non.
Un besoin, c'est une chose. Ne jamais être rassasié est une autre. Ils ont de l'argent, mais ils en veulent toujours plus.
De toute façon.
C'est ça.
Oui, comme l'argent appelle l'argent, celui qui a de l'argent et te dira qu'il en a jamais assez. Voilà, c'est une règle.
Voilà, mais c'est pas un besoin. Besoin pourquoi? Pour développer le football dans le monde entier. Je rigole, ils en ont rien à foutre. Quand le président de la FIFA débarque dans un pays, on lui débat le tapis rouge.
Ouais.
Maintenant tu me dis, c'est pour développer les pays africains, les pays sous-développés, à ce qu'un pays d'Afrique puisse accueillir la Coupe du Monde. Ok, là d'accord, mais c'est pas le cas.
Oui, en plus maintenant, pour que l'Afrique revoie la Coupe du Monde chez elle, peut-être que de notre vivant...
Bon courage.
Déjà,
il avait donné en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud, en 99, elle avait accueilli la Coupe du Monde de rugby.
Exact, ouais.
Donc vous avez déjà des infrastructures. C'est un pays qui est structuré, notamment, il y a surtout l'Angleterre qui est derrière.
Bien sûr, ouais.
Donc ils n'ont pas donné la Coupe du Monde à n'importe qui.
Très bien, merci beaucoup Nordine.
À très bientôt, merci de m'avoir écouté.
Bien sûr. Ben oui, tout le plaisir, c'est d'écouter nos auditeurs parce que vous êtes très perspicaces dans vos analyses. Et puis, au moins, vous touchez à des sujets qui interpellent également la conscience humaine. Merci Nordine. Allez, la pause et puis dans un instant, on continue avec vos appels. Attention, à partir de 19h, j'arrête les appels puisqu'il y a un autre sujet qui arrive et qui est très, très brûlant.
Foot de sport. Revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h, Foot de sport sur Beurre FM.
Reprise de la troisième et dernière partie de cette première heure de Foot de sport. Et puis, tenez, on va y aller du côté du Standard. Bonsoir.
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, Mourad, comment vas-tu?
Ça va très bien, et vous?
Ça va, alhamdoulilah, merci.
Tout d'abord, Cruyff en 78, c'était plus pour le fait divers qu'a subi sa famille.
Hein. Oui, c'est pas
le cas. Il l'a déclaré, c'est pas par rapport à.
Non.
Là, il a voulu jouer grand monsieur, je ne participe pas à la Coupe du Monde, parce que c'est un régime autoritaire, c'est pas ça.
Oui, je crois qu'il y a eu le kidnapping de son fils, non?
Oui, exactement.
Ouais.
C'est pour ça, en fait, il a voulu rester auprès de sa famille.
Oui.
Il a préféré ne pas aller jouer la Coupe du Monde. Ensuite, pour ce qui est du Qatar, on est en train de tirer sur le Qatar, pays des droits, ce n'est pas le pays des droits de l'homme et tout. Je voudrais juste rappeler qu'il faudrait plus blâmer Sarkozy et Platini, quoi. C'est eux qui ont tout fait pour que cette Coupe du Monde ait lieu au Qatar. Voilà, quoi, on sait très bien ce qu'il y a derrière avec le Qatar. Entre parenthèses, le Qatar, sur le contrat de Kylian Mbappé, Et ils vont récupérer, l'État français récupère 350 millions d'euros d'impôts. Hein.
Oui, non, mais.
Donc, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a tout fait pour que Kylian Mbappé reste en France.
Ben oui, la poule aux œufs d'or encore.
Exactement. Donc, il faut arrêter l'hypocrisie. Ils sont bien contents quand leur fric arrive, mais pas contre, soi-disant, il faut pas. Ils sont contre une organisation de Coupe du Monde là-bas. Nasser.
Ouais.
Que déloge la semaine dernière. Franchement, le footix, c'est Foudil. Ils t'ont vraiment, franchement, ils t'ont vraiment apprécié. Juste rappeler, moi, ma sœur, je vais dire la vérité.
Qui ça,
moi.
Qui ça?
Mahrez et Foudil, la semaine dernière, qui t'ont dit que tu es fantastique et tout, que moi aussi, je suis d'accord pour dire que t'as fait une grande Coupe d'Afrique en 2000. Ouais. Moi, ce que je te reproche, Nasser, et je vais te dire la vérité, je voulais pas t'en parler, mais je t'en ai voulu. Je t'en ai voulu parce que t'as quitté le bateau au moment où on avait le plus besoin de toi. Tu es resté, t'es arrivé en novembre 2000, en novembre 99, t'es reparti en avril 2000 pour des, pour des considérations.
Juillet.
J'imagine.
Juillet.
Non, t'es parti après le match
du Cap-Vert. Non, mon contrat
est complet. Dernier match que t'as fait, c'est le Cap-Vert à Annaba.
Oui, mais j'étais en poste encore. Et c'est
mais je veux dire, pour moi, t'as arrêté au mois d'avril. Mahrez,
si je peux te dire des chiffres, des
non, Mourad.
Mourad, excuse-moi. C'est Mahrez. T'as vu la psycherie. Mais je parlais de Mahrez, alors on parlait du joueur. C'est pour ça que je suis encore là-dessus.
Super, je pensais pas que j'ai joué aussi bien.
Ah, bah oui. Non, je te l'ai dit déjà plusieurs fois, il y a eu des considérations extérieures où ils ont tout fait en sorte pour cadrer, pour que ça pète.
Donc, je veux dire, j'aurais aimé que tu mettes de côté ce côté qui t'a pas plu, parce qu'en plus on a récupéré Ali Fenarbi au mois de septembre.
Ouais. Mais je l'ai avec
Saïm.
Il est avec moi actuellement en formation là. Il est avec moi.
Comment ?
Ali Benarbia est avec moi en formation là.
C'est super. Mais voilà, j'aurais aimé qu'il dispute la CAN. Et ensuite, on l'a récupéré en septembre 2000. Il a joué son premier match le 5 juillet contre le Burkina Faso, je crois, devant 60 000 personnes. Je te cache pas que ça m'a... D'autant plus que tu as laissé la place à Abdel Jedaoui, qui, pour moi, excusez-moi de le dire, n'est pas un sélectionneur.
Ouais.
Et en plus, il s'est mis à dos Moussa Saïd, qui était le meilleur joueur.
Bien sûr.
Donc déjà, j'ai rien compris. Ensuite, la semaine dernière... ce fameux joueur que Diego Maradona appréciait tant.
Ouais.
C'est Jorge González, dit Magico González.
Très bien.
Un salvadorien.
Très bien.
Et Maradona, effectivement, voulait qu'il joue à Barcelone.
Tout à fait.
Il avait, c'est un joueur qu'on avait découvert à la Coupe du Monde de 1982 avec son équipe nationale du Salvador.
D'accord.
Il était le seul à tirer son épingle du jeu. Souvenez-vous de ce match historique. Parce qu'ils ont pris 10 buts à 1 face à la Hongrie.
Oui, tout à fait. Oui.
Et je me souviens avec mon petit frère, on se régalait ce jour-là parce qu'on a vu autant de buts. D'ailleurs, c'est le score le plus gros qu'on ait eu en Coupe du Monde.
Oui.
Et donc ce fameux joueur a su impressionner. Il a attiré les regards, il a signé à Cadix.
Ce que j'ai dit.
Ouais, c'est il ça. A signé en Espagne à Cadix.
Ouais.
Et Maradona, lors d'un match Barcelone-Cadix.
Ouais.
Jorge avait mis un but d'anthologie. Il avait dribblé 3 ou 4 joueurs du Barça. Et Maradona avait été impressionné. Il avait déjà été impressionné lors du match de la Coupe du Monde Salvador-Argentine en 1982. Et pourquoi le problème de Jorge González, c'était pas un problème de pression. En fait, son problème à lui, tu sais, c'était quoi?
Dis-moi.
Il adorait les boîtes de nuit et les femmes. Le football, il s'en foutait royalement. Il en avait strictement rien à faire. Pour lui, c'était un simple jeu comme moi, je joue au football. C'était un fantastique joueur, mais pas sérieux du tout. Pour te dire, à Cadix, il a loupé des tas de matchs parce qu'il se réveillait à 5h du matin. Parce qu'il faisait la fête toute la nuit. Voilà pourquoi il n'a pas réussi à percer. Après, il a joué à Valladolid, je crois.
Parce qu'il faut que j'accélère, il faut que je prenne les deux appels.
Non, voilà, c'était juste pour ça.
Ouais,
très bien.
Et puis, juste un petit truc.
Ouais.
Les Nigérians en jeunes, ils sont bons. Pourquoi ils sont bons?
Ben parce que c'est pas l'âge légal.
Et avec ça.
Non, c'est fini.
Il y a beaucoup de présumés. Rappelle-moi de l'équipe de Gambie en 2009.
J'ai été sur place, j'ai vu.
Comment expliquer qu'en équipe première, ce soit le Mali, le Nigeria ou le Cameroun, il ça pose pas en équipe première.
Moral, c'est fini ça.
Mais si, ça existe toujours, les présumés.
Mais non.
Le type est né en 1975, on le fait clair en 79.
Non, non, il regarde
mais
le
premier. Mais après, en équipe première, quand ils ont 20, 25 ans, tu sais, ils arrivent au même niveau que
attends,
certains. Morad,
attends, oui. Laisse-nous en placer une au moins pour qu'on te dise aussi les
traditions.
Sache que Morad, qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. On est sur du biométrique aujourd'hui, n'oublie pas. Tous les passeports au monde sont biométriques.
Oui, et donc, oui mais quand ils dominaient les championnats du monde.
Allô, attends, laisse la prise. La radio du poignet, on la connaît. Il y a aussi sur le biométrique, sur l'œil. On connaît l'âge par l'œil. L'âge, tu le définis par l'œil aujourd'hui. Donc quand tu dis des choses comme ça, j'ai dit attention, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on trait. Et même, j'ai regardé les filles, là, ils n'étaient pas...
Oui, d'accord, c'est pas des filles.
Ouais. Je pense que plus les Allemandes étaient plus,
oui.
plus avantagées physiquement que les Nigériennes. Mais bon, sûrement que...
Ok, merci. Voilà, je suis obligé d'avancer, parce que j'ai un temps très, très limité, là, jusqu'à 19h. Je te souhaite une bonne soirée.
Je vous remercie, bonsoir.
Merci.
Salut, merci, mon frère.
Allez. Malik.
Bonjour Mohamed.
Ça va Malik.
Bonjour Fadil.
Bonsoir Malik.
Bonjour Nasser.
Bonjour.
Bonjour de l'autre côté Nawel, Boulhi, tout ça. On n'entend plus parler de Nawel. Faut que vienne de temps en temps et tout ça.
Bah écoute, figure-toi que j'ai eu un message d'elle aujourd'hui par SMS.
Ouais. On a oublié
elle est
tout le monde. Tout le monde oublie Nawel. Ça passe à la radio.
Bah, oublié parce qu'il y a le. Comment on appelle ça Oui. Il y a la petite, hein, il faut bien la.
Oui, je sais.
Donc elle n'est pas à l'école, c'est pas ça.
Je te dis, Mohamed. Vous avez parlé de Qatar tout à l'heure. C'est quoi un appel? Un appel de business. Voilà.
On le sait, oui.
Ils aiment le Japon, il marche sur le ventre. Chacun a ses intérêts. Voilà, Mohamed. Nasser Mahdi est mort. Quelqu'un qui a des intérêts avec toi, il va venir, il n'a pas d'intérêt, il va. Quelqu'un qui vient d'intérêt avec toi. Il va venir, il n'a pas de terre, il s'en va.
Bah toujours, c'est quoi
voilà. C'est tout le business. C'est Qatar, c'est l'argent qui compte. Voilà, ils ont de l'argent, ils sont riches, ils peuvent gagner la coupe et tout ça, ils sont riches et tout ça.
Bah, tu sais, pour dire qu'ils sont.
Mais il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien du tout. Hein.
Pour dire qu'ils sont riches, il faut le faire. Hein. Voilà. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde a été décalée, enfin que l'organisateur impose de faire décaler la Coupe du Monde de l'été vers l'hiver. À cause de conditions atmosphériques, mais surtout, c'est parce que tu ne peux pas tuer le business d'une Coupe du Monde comme ça. Donc, c'était ce qu'il fallait faire, mais couper le calendrier d'une saison comme ça en deux pour la Coupe du Monde, eh bien, il faut le faire et ils l'ont fait. Voilà ça.
Plus, Mohamed, je veux tenir pour la Tunisie, quand vous avez parlé, remplacé par l'Algérie, et peut le faire l'Algérie avec l'argent. Il est Yémen.
Ouais, mais non.
Voilà. Il peut le faire, ne t'inquiétez pas.
Mais non.
Là, il est Yémen. L'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent qui parle, là, Mohamed. C'est pas papa d'argent qui parle.
On a la raison.
Voilà. Il est Yémen. L'argent. Ouais. L'arme.
Mais voilà. On est d'accord, Malik.
Voilà. Vous dites, Mohamed, c'est quand ils vont jouer contre l'Afrique du Sud, l'Algérie, là
je crois que c'est 3-4 jours avant la Suède. Vers le 14-15 par là.
En Afrique du Sud.
Ouais.
Alger.
Ouais, dans le
Bush Padre. Ouais, Alger, ouais.
Non, voilà. Je crois qu'ils vont jouer à Constantine, ce match-là. Voilà, ils vont jouer au stade de Shehoud Hamlaoui. Voilà, très bien.
Oui, Medelir, c'est l'officiel, là, il va jouer.
Un noir
Medelir, ce qui joue à son dia de jeunes. Il a choisi l'Algérie.
Ah ouais, mais je pense que là, à mon avis, la seule nouveauté.
Chaibi qui joue à Toulouse.
Malik. Pour moi, la seule nouveauté, ce sera Oussama War contre la Suède.
Oui, moi, on va voir contre la Suède. Même Chaibi, il est bien, attention. C'est un jeune de 20 ans, attention. Ouais. Attention, il est bien à Toulouse. Il marque des buts. Hein.
Mais là, comme la déco, tu
vois. Voilà,
il faut se remonter.
Voilà. Mais dis-le si je ne connais pas.
Ouais, non, tu vois les joueurs en train de jouer à la Coupe du Monde et toi, tu es là en train de regarder. Non, il faudra du temps pour se relever.
Oui, mais attention, l'équipe de France n'est pas de prendre. Hein.
Ouais,
bon. Attention, Deschamps, il est en train de superviser sur lui.
Non, mais Deschamps, ça y est, là, à mon avis, il a allé sur Amine Gouiri. Et Gouiri qui n'arrête pas de cartonner. Là, 2 buts en Coupe d'Europe, 1 but encore aujourd'hui pour Rennes. C'est sûr que là, depuis qu'il a quitté Nice, il arrive à Rennes. Et le garçon, il est en train d'exploser. Hein.
Mais je ne pense pas qu'il a sa place dans l'équipe de France. Hein.
Oui, non, bah, c'est pas ça, il y a Benzema.
Il ne faut pas oublier, il y a Aouchiche. Il y a Lorient.
Non mais attends, t'as des garçons. Écoute, tu sais, il y a Slimani qui a sorti une phrase, il a raison. Celui qui veut pas venir en équipe nationale, il faut pas lui dire Arouah Blemzia, non.
Oui, oui, je sais, mais Nasser, il t'a dit il y a des équipes. Il y a des pays, ça avance, ils sont en formation comme Nigeria et tout ça. Nous, on n'a pas de formation. On va rester 40 ans comme ça. Jamais on va faire de formation. À chaque fois, on cherche des joueurs en migration parce qu'on n'a pas de formation, on n'a pas évolué. Voilà. Normalement, là, j'irai de retard. Normalement, on va faire de formation, on va faire tout. On n'a rien du tout, ma boîte. On va rester comme ça.
Malik, j'ai juste une question. Pourquoi on n'a rien du tout?
Voilà. On n'a rien du tout, on n'a pas de formation, on n'a pas de centre de formation à Fodé.
Oui, mais pourquoi on n'a pas de centre de formation? Est-ce que nous avons un manque d'argent? Non.
Oui, on n'a pas un manque d'argent.
Non, j'ai lu une information en début de semaine qui est très importante.
Laquelle?
Pour la première fois, tu sais, dans cette émission, on avait dit qu'il est temps que l'État jette un œil à la gestion des clubs.
Ils vont ouvrir une enquête.
Voilà, c'est-à-dire que tout l'argent de la Ligue 1, Ligue 2 et la 3e pour voir où va l'argent. Et ça veut dire que
Très simple pour voir où va l'argent. C'est très très simple. Hein. Il suffit juste de regarder les véhicules des présidents, tu sauras où va l'argent.
Ouais.
Malik, le dernier président de Ligue 1 en Algérie a une Porsche Cayenne.
Oui, mais regarde depuis d'Afrique. Ils sont venus. À 17 ans, ils sont partis en Europe.
Ouais. Voilà. Non, merci Malik.
À 17 ans.
Ouais. Malik, merci parce que là, quand je dis que j'ai pas beaucoup de temps, il est 18h55. Donc là, je vais lancer le sujet qui va nous mener jusqu'à 19h avec notre invité. Bonne soirée et à dimanche prochain.
18h, 20h, Fou de sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Ravi de vous retrouver pour cette deuxième heure avec un dossier exceptionnel, vraiment. Et puis d'abord, je tiens à remercier la personne que je vais vous présenter dans un instant. Dans ces moments difficiles, ce n'est pas évident de s'exprimer juste après une élection et qui n'est pas encore validée parce qu'on doit attendre encore quelques éléments que le nouveau bureau envoie actuellement au board international. Je veux parler bien sûr de la crise que vit le handball algérien. Quels sont les projets de Karima Taleb puisque c'est la première femme présidente à diriger cette instance depuis l'indépendance de l'Algérie. Il est vrai que c'est l'un des sports rois également dans le pays. Après le football, tout le monde chez nous a joué au foot et au handball. Et on a la chance aussi chez nous à Beurre FM d'avoir un consultant handball qui vient régulièrement lorsque le sport qui l'a fait grandir, qui l'a fait connaître à travers le monde, même s'il va bien ou il va mal, il répond toujours présent pour essayer aussi d'apporter son éclairage.
Les dossiers de Fou de sport.
Madame Karima Taleb, vous êtes à Alger. Bonsoir, bienvenue sur Beurre FM.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Madame Taleb, je rappelle, je suis avec également toute mon équipe et notre consultant, Salim Nedjel, ancien international et qui vit ici à Paris. Le handball, c'était aussi toute sa vie. Moi d'abord, avant de vous féliciter à 100%, excusez-moi du terme que j'utilise, que s'est-il passé lorsque vous avez, on va dire, été brillamment élu par rapport au nombre de votants et l'intervention du board international de l'IHF? Que s'est-il passé entre-temps, madame la présidente?
Bon, l'IHF a refusé l'Assemblée extraordinaire à cause du statut parce que l'Assemblée n'a pas voté pour les statuts. Donc, l'IHF a intervenu chez le ministère, mais...
Oui. Je vous écoute.
Mais le problème il n'est pas encore réglé.
Donc, ça veut dire que pour l'instant, vous êtes élu, mais vous ne pouvez pas exercer parce que l'IHF n'a pas donné son feu vert et validé votre élection.
Oui, c'est ça.
Bon, et pourtant, vous, et pour, alors, et pourtant, vos collègues, pardon, tous ceux qui sont membres de l'Assemblée générale, vous ont élu pour ce poste. Alors, la question, est-ce que vous allez attendre avant d'exercer?
Je ne peux pas exercer sans l'autorisation du ministère, donc je dois attendre jusqu'à le nouvel ordre. Mais normalement, Inch'Allah, ça va régler.
Alors, donc,
parce que,
oui, allez-y, Karim Atalab, allez-y, je vous écoute.
Parce que l'IHF est tort. Normalement, d'après les statuts, les statuts, les nouveaux statuts sont adoptés, oui, parce que les anciens, on doit approuver l'Assemblée par le statut précédent.
D'accord.
Donc, oui.
J'ai compris, non, mais moi, j'ai très bien compris. En gros, il ne peut y avoir une élection sans qu'il y ait adoption des nouveaux statuts, chose que vous avez fait, mais peut-être que c'est l'IHF qui est en retard à ce moment-là, non?
Oui, c'est par rapport à l'IHF, mais l'IHF est en retard.
Oui.
Parce que on peut pas utiliser un statut sans l'adoption.
Bien sûr.
Donc, pour adopter un statut, normalement, on utilise l'ancien statut.
Ouais.
L'ancien statut, l'adoption est faite.
Mais du coup, Madame la Présidente, aujourd'hui, vous êtes la nouvelle Présidente, mais dans ce temps où, pour l'instant, c'est suspendu, qui dirige la Fédération, alors?
Ce n'est pas suspendu. Pour l'instant, j'attends le haut clip de Fédération Internationale, mais ce n'est pas suspendu.
D'accord. En fait, si j'ai bien compris, actuellement, donc, en Algérie, vous êtes... vous commencez à exercer normalement, c'est ça?
Oui, j'ai commencé à exercer, j'ai fait un bureau fédéral,
oui.
On a fait quelques décisions et après l'IHF a envoyé un courrier.
D'accord. Dites-moi aujourd'hui, quel est, après, avant de laisser Salim vous poser quelques questions, dites-moi aujourd'hui, quelle est la première décision que vous avez prise, c'est-à-dire, est-ce que...
Allô?
Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô?
Oui.
C'est bon. Alors, ma question est la suivante. Oui. Quelle est, là, aujourd'hui, quelle est la première décision que vous avez prise en tant que présidente?
J'ai pris plusieurs décisions, oui, par rapport aux priorités, parce qu'on avait une priorité de l'équipe nationale senior dame qui va jouer la championnat d'Afrique.
Oui, d'accord.
La Coupe d'Afrique, au championnat d'Afrique.
Oui.
Et après, on a pris une décision de débuter le championnat. Mm-hmm. On va jouer la Coupe d'Algérie de l'année passée. Et on va mettre en place le collège technique dans 15 jours. Mm-hmm. Donc, on a pris plusieurs décisions.
D'accord. Alors, c'est très important ce que je vais vous dire. Ça veut dire que là, les filles vont participer à un championnat d'Afrique alors même que le championnat national était à l'arrêt.
C'est dommage, ouais, on est en retard, c'est pas de ma faute. C'est...
Ouais, je sais bien sûr, madame, vous arrivez, vous avez trouvé une fédération carrément, passez-moi l'expression, comme une vraie tchouka, c'est un gros chantier pour vous.
Bien sûr que c'est un grand chantier, parce que c'est pas... C'est un cumul de plusieurs années. C'est
ouais.
pas, c'est pas de, de l'année passée, c'est bien avant.
Et est-ce qu'au niveau des filles, vous allez... parce qu'on sait qu'on a... Moi, j'ai connu de grandes handballeuses algériennes. Est-ce que vous allez mettre en place, au niveau de votre direction technique nationale, une vraie politique du handball, surtout donner la chance aux jeunes filles, à la nouvelle génération qui arrive, de pratiquer ce sport qui est très populaire en Algérie?
De toute façon, on doit refaire tout.
Ah.
Parce que les deux ans de corona, c'est un vrai problème pour les jeunes algériens.
Ouais.
Donc, on doit descendre jusqu'à les catégories, les petites catégories pour renouveler le handball algérien, parce qu'on a un grand problème.
Ouais, ouais. Salim, tiens, je... Je te laisse, vas-y.
Bonsoir, Madame Taleb. Félicitations, même si c'est toujours pas officiel, on va dire, en tant que présidente de la Fédération algérienne de handball, autant qu'ancien handballeur international. J'ai grandi, je suis né à Oran, j'ai grandi à Oran, j'ai été formé à Oran, j'ai été formé en équipe nationale. J'ai fait pas mal de compétitions internationales avec l'équipe d'Algérie. Racontez-nous notre parcours à vous, qui vous êtes, et comme ça au moins les auditeurs et les auditrices, au moins ils auront une idée qui est la future, peut-être, j'espère, pour vous, parce que on n'a jamais vu ça maintenant, des problèmes au sein de la commission comme ça. Mais bon, comme c'est l'IHF et c'est la Fédération internationale, pardon, de handball qui doit trouver la solution. Donc voilà, j'espère que les instances algériennes vont aussi s'occuper de ce dossier, et donner la chance aux joueuses de bien préparer la Coupe d'Afrique qui va venir là. Et surtout le championnat du monde des garçons qui va se dérouler entre la Pologne et la Suède au mois de janvier, sachant que on a beaucoup de joueurs blessés, on a une génération qu'on n'est pas, c'est flou quoi, il y a rien qui nous donne, on va dire, de regarder vers l'avant, il y a rien de positif, on va dire, depuis quelques années. On a dit la même chose avec Mohand quand Habib Laban a été élu président. Il nous a dit la même chose parce que c'est un grand chantier. 5 ans après, c'est encore un grand chantier. Donc, dites-nous un peu dans quel état vous êtes et quel est l'état du handball algérien, que ça soit féminin ou masculin.
Je me présente. Bonsoir. بالعربيه اش تدي
يعني
تعريف لي من الجال
بيان سور vous pouvez aller Karim ici on maîtrise toutes les langues, il y a pas de souci.
OK, je sais, c'est des algériens.
Bah oui.
Donc Karim Talib, j'étais une joueuse de handball, j'ai pas joué le haut niveau. Après j'étais entraîneur des catégories jeunes à Boumerdès. Jusqu'à l'équipe senior. J'ai formé une équipe qui est maintenant, je l'ai premier rôle. J'étais donc la présidente de CF Boumerdès. Depuis la création, je suis. En sport, c'est ça. À ma vie personnelle, je suis universitaire en électronique, Université de Boumerdès.
Non,
grosso modo.
Allah
voilà, c'est bien.
Maintenant, elle va nous répondre sur l'état du handball algérien. Quel est son programme et qu'est-ce qu'elle compte faire si demain ça confirme qu'elle est présidente de la Fédération algérienne de handball.
Maintenant, je dois mettre les poids sur les i parce que le handball algérien est stagné. Donc, premièrement, on doit s'organiser. On doit voir comment mettre toutes les choses à sa place. Parce qu'il y a. Il y a trop.
Oui.
Donc, pour débuter, on doit s'organiser. Après, on doit surtout travailler sur les petites catégories. Parce que. En senior, on est un peu trop loin.
Oui.
Donc, on doit travailler avec les joueurs existants et après, on doit travailler à long terme pour avoir des résultats dans 5 ans ou bien 6 ans. Maintenant, c'est très difficile. On doit travailler.
Karim Atalab, on a compris que votre priorité, c'est la formation des jeunes parce que. Passez-moi l'expression, pour les grands, il est trop tard.
Bien sûr. Ouais. C'est pas trop tard.
Non,
des bons joueurs, mais des joueurs de grand niveau, c'est très difficile.
Ouais.
Parce que les joueurs ont arrêté de 2 ans de corona, c'est difficile de rattraper ce retard.
Oui, salut, vas-y.
Oui, Madame Talab, c'est vrai que le corona a mis un vrai arrêt par rapport au championnat, mais ce que je veux dire par là, c'est même dans les championnats européens ou même tunisiens ou égyptiens, ils ont continué à jouer, je me rappelle... Ouais, sauf exactement. Donc, comment ça se fait que des joueurs de l'équipe nationale n'aient pas un préparateur, par exemple physique, qui leur donne chacun son programme, même si on a vu que tout le monde pouvait faire du sport de chez lui. Donc, ça, c'est au moins pour des joueurs qui jouent le haut niveau, c'est très important parce que quand on s'arrête comme ça pendant 6 mois généralement ou même avant. On a toute une préparation physique à refaire et tout un rythme à reprendre derrière. Donc ça, c'est très très difficile pour les joueurs algériens. Et en plus, on n'a pas tous les moyens, on va dire, les infrastructures qu'il faut pour qu'on arrive à rattraper ce retard-là. Et ça, c'est très 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 dur pour les joueurs.
Oui, on doit commencer à zéro. Pour avoir bien sûr le haut niveau, sinon c'est en jeu de balle. On a des équipes, on est là, mais pour jouer les premiers rôles, on doit commencer à zéro.
Est-ce que vous ne pensez dans pas les... Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, Karim Atalab, que l'idéal, comme l'a toujours dit même dans le football notre consultant Nasser Sanjak, on commence par l'école, parce que le sport c'est d'abord une pratique qui commence à l'école. Ensuite, dans chaque, comme on le faisait à une époque, dans chaque ville, vous avez des tournois de différentes catégories chez les garçons, chez les filles. Et après, c'est en partant du bas que vous créez une élite pour la suite, c'est ça hein?
Bien sûr, l'école, c'est la base de tous les clubs, normalement. Ouais. On doit jouer beaucoup de matchs au niveau des ligues de Wilaya. C'est pour ça, les ligues de Wilaya, c'est notre priorité. On doit travailler ensemble. On doit contrôler les équipes parce que c'est ça le rôle de la fédération ou bien le rôle des ligues.
C'est pas uniquement dans l'école. On a tous appris à jouer en handball dans l'école, donc on restait de midi à deux et après on continuait l'étude. Donc il faut vraiment faire un lien entre le sport scolaire et
celui des clubs.
Et exactement, parce que généralement c'est partout pareil, hein, même ici quand tu vois l'équipe de France, des joueurs quand ils arrivent en équipe, avant qu'ils arrivent en équipe nationale, ils passent vraiment par un chemin qui est très difficile, le centre de formation, après le pôle France, et après ils voient si le joueur est apte pour jouer pour l'équipe 1. Donc il faut vraiment, là on est très loin de ça là-bas en Algérie, parce que le championnat a été gelé pendant 2 ans avec les filles, les garçons c'était pareil, donc c'est très très difficile avec ce problème-là en plus qui vient de se rajouter. Les élections ne sont pas valables, il faut refaire les élections, on ne sait pas qui doit prendre des décisions, est-ce que notre président doit intervenir, est-ce que on ne sait pas. Donc par contre, on a un championnat d'Afrique bientôt, et on a un championnat du monde bientôt aussi.
De toute façon, maintenant, je suis à la Coupole pour un match amical des seniors dames. Le championnat d'Afrique. On va jouer le championnat d'Afrique avec le minimum de préparation. Mais Inch'Allah, après le championnat d'Afrique, on va mettre un programme pour les filles et pour les garçons.
D'accord.
Même les garçons pour le championnat du monde, c'est très difficile.
Ouais.
C'est les mêmes conditions après. Donc, notre programme, c'est juste après le mondial.
Très bien. Vous restez avec nous en ligne, Madame la Présidente. Comme je vous l'ai dit, okay. On va vivre. Et puis, ça veut dire que je vais passer une page de réclame. Vous restez en ligne et puis je vous récupère dans un instant. À tout de suite.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h, Foot de sport sur Beurre FM.
C'est très animé sur le plateau. Donc je vous rappelle, l'invité exceptionnel de cette émission, c'est Karima Talab, la nouvelle présidente de la Fédération algérienne de handball, l'une des grosses fédérations après le football. Qui pose les questions? C'est Nasser Sanjak ou c'est Fodil Belamri?
Alors, je laisse ce soin au coach.
Alors, on va donc Karim Atalab, c'est Nasser Sanger qui est avec vous. Nasser, c'est à toi.
Merci. Bonjour madame. J'allais dire madame la ministre, madame la présidente, c'est plus sympa, merci pour plus tard. Ce que je voulais dire, c'est que quand on connaît un peu les antécédents du handball algérien, qui sont quand même énormes, on va dire phénoménal, hein. On a eu quand même des grandes équipes de handball. Quand on a su à peu près, quand on a su du moins les problèmes qu'a rencontré la fédération avec les négligences qui ont été mises en place pendant toutes ces périodes-là, et on a eu une équipe nationale qui a erré pendant 2 ans là, sans savoir qui, quoi, comment. Moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que pour vous, l'objectif déjà, c'est de restructurer ou du moins structurer cette équipe nationale A d'Algérie, de handball masculin, pour dire que c'est quand même la locomotive, parce que s'il n'y a pas de locomotive, je ne sais pas comment les choses vont pouvoir poursuivre. Deux, et quel est votre programme que vous allez pouvoir mettre en place pour mettre en place réellement un sélectionneur ou avec une direction technique nationale de haut niveau ou de gens qui vont être capables de vous suivre dans votre projet.
De toute façon, je vais mettre une direction technique. Normalement, avant le 31-12, je vais faire une direction technique parce que le technique, c'est pour les techniciens. Donc, on doit avoir des grands techniciens algériens. Je vais ramener les meilleurs. Inch'Allah, pour avoir des résultats à l'avenir, parce que c'est un vrai chantier.
Bien sûr. C'est pour ça que je vais vous poser la question, Madame la Présidente. C'est qu'on, moi, je connais bien le handball algérien, très bien même. Je connais bien les gens qui sont à l'intérieur. J'ai connu le passage de, les turbulences. Je ne sais même plus le tourbillon qu'il y a eu pendant des années. On a vu un championnat qui a été arrêté pendant des années, où on n'a rien vu apparaître. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir des matchs de petite catégorie dans des clubs, et j'ai vu des choses très intéressantes. Moi, je pose la question, c'est à quel moment on va réellement, où vous allez vous mettre réellement, on va pas parler de travail, mais de concertation, de collaboration avec et l'émigration, parce que c'est elle quand même qui détient la puissance et la notion de faire des résultats, et les locaux, les gens qui sont chez nous, comment on va pouvoir collaborer ensemble, parce qu'aujourd'hui il est temps pour pouvoir toucher le très très haut niveau du handball, il faut avoir les deux mains, il faut avoir ces deux prises. Si vous lâchez une des deux prises, il va y avoir un grand problème, c'est ce qui s'est passé pendant ces années-là. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que vous, dans votre calendrier, vous allez présenter des collaborations avec des techniciens qui sont ici, qui sont en place, des joueurs qui sont ici et qui ont envie de jouer pour l'Algérie, il faut le savoir ça, Madame le Président, c'est que tous les gens qui sont ici ont envie de jouer pour le pays, réellement, et ils ont la qualité. Maintenant, c'est à vous de jouer. Hein.
Allô ? Madame, allô ? Est-ce que vous m'entendez ?
Allô ?
Oui, c'est bon. Ouais.
Dans mon projet, je vais installer une commission, inchallah, à l'étranger avec les techniciens algériens pour la détection des Algériens à l'étranger, parce que on doit utiliser tout le monde, tous les Algériens, les locaux via les binationaux.
Bien sûr.
Donc on va mettre en place une direction de détection à l'étranger avec les techniciens algériens, parce que on a beaucoup de techniciens à l'étranger.
C'est ça, oui. Alors, j'ai bien compris. En fait, vous allez vous servir de la compétence des Algériens, principalement qui sont ici en France, pour vous apporter, c'est-à-dire ce côté professionnel dans la gestion, notamment des jeunes catégories et même des joueurs A, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui sont des handballeurs et qui aimeraient bien jouer pour l'Algérie, mais c'est vrai qu'il y a eu tous ces championnats qui étaient à l'arrêt ou pendant quelques années on a négligé l'apport que peut avoir l'immigration. Regardez ce qui se passe avec le football. Alors on s'est dit le handball également, mine de rien, mais Salim est là pour le confirmer, on a beaucoup de handballeurs de chez nous aujourd'hui dans les championnats français, espagnols, allemands, hein, attention hein.
Bien sûr, de toute façon l'équipe nationale c'est pour tous les Algériens. N'importe quel Algérien, elle a le droit de son équipe nationale. Donc, on va, inch'Allah, mettre une commission de détection à l'étranger et on va travailler ensemble, parce que le handball algérien doit نقولوا يجمع تولي تكنيسيان الجزائريين pour avancer.
Oui, mais madame la présidente, ce que je voulais dire, Madria, vous savez, ce discours-là qui est magnifique parce que ça rentre dans vos prérogatives, mais on l'a entendu des années, ça, depuis 20 ans, on entend ça. On entend parler de oui, on va être avec l'immigration, oui, on va faire des choses. Et à chaque fois, il n'y a rien qui se passe. Ou ça commence, ou il y a un début de quelque chose. Et après, hop, ça finit par un sélectionneur étranger qui arrive, qui construit une équipe en voiture, en voilà, qui constitue une équipe de briques et de brocs, et ils font une compétition. Il n'y a pas ce que nous, on veut, c'est de retrouver le handball d'antan. L'Algérie est quand même une des nations du handball mondial, c'est pas africaine. Elle a eu quand même ce titre de champion d'Afrique et elle a participé à des grandes épreuves mondiales où elle a fait très grande figure. Et on a eu des grands joueurs. Et aujourd'hui, on voit depuis, 10 ans, 15 ans, je regarde plus, je vois plus rien. Je ne vois plus rien, moi. Personnellement, j'essaie de regarder un petit peu à droite, à gauche, dans le handball algérien, je vois plus personne. Et moi, je pose la question, je dis, c'est quand que ces gens-là vont revenir? En plus, on a les garçons, on a la jeunesse.
Parce que les gens ont... Parce que trop de problèmes, trop, je sais pas, de magouilles. Donc les gens veulent pas travailler. Mais Inch'Allah, il a présidente de fédération, j'ai fait tout pour réunir la famille handball parce que on doit travailler ensemble en Algérie ou bien à l'étranger pour développer notre handball et pour avoir des bons résultats à l'étranger. Donc on doit travailler tous. On ne peut pas travailler seul.
Voilà. Allez, Fodil.
Madame la Présidente, bonsoir. Moi, j'ai juste trois petites questions à vous poser. La première, tout à l'heure, vous avez parlé de la Ligue de Wilaya. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un suivi? Est-ce que vous avez un suivi de cette Ligue de Wilaya? Est-ce que vous prévoyez de suivre cette Ligue de Wilaya? La deuxième question, ça concerne l'équipe nationale, puisque tout à l'heure, vous avez parlé de l'équipe nationale qui aura un match prochainement. Je sais que c'est pas de votre ressort, c'est pas vous qui sélectionnez les joueurs, mais j'aimerais bien savoir sur quels critères vous allez sélectionner ces joueurs, sachant que le championnat est à l'arrêt. Et ma troisième question, quel serait votre projet et quels seraient les joueurs ou les personnes qui vont vous entourer dans votre mission, en cas où vous êtes reconduite?
Pour le championnat du Wilaya, bien sûr, on a un membre fédéral qui doit suivre les ligues et les équipes. Mais moi, personnellement, je vais veiller sur les ligues du Wilaya parce que c'est la base de la fédération. Surtout l'organisation du championnat chez les jeunes, parce que bien avant, il n'y a rien. Il y a des ligues du Wilaya avec une seule équipe. Donc, on doit augmenter au moins le nombre des équipes pour avoir plus de matchs pour les catégories jeunes. Donc, les ligues du Wilaya, je vais les suivre personnellement, parce que pour moi, c'est la base de formation. La deuxième question.
C'est sur l'équipe nationale, puisque vous allez parler tout à l'heure d'un match de la sélection. J'aimerais savoir, je sais que c'est pas votre travail, c'est pas de votre ressort, mais on aimerait savoir sur quels critères vous allez sélectionner ces joueurs, sachant que le championnat est à l'arrêt depuis 2 ans. Et comment vous allez faire pour organiser ce match et le préparer surtout?
C'est la CAN, c'est pas un match.
Ouais, c'est
il y a la CAN et la Coupe du Monde, plutôt le championnat du monde, des garçons entre la Pologne et la Suède.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Pour l'instant, les sélections, c'est pas à moi. Oui. Mais normalement, c'est des joueuses qui ont joué les Jeux méditerranéens. Donc, c'est quelques joueuses qui jouent à l'étranger. Il y a 6 des nationaux. Normalement, c'est ça, l'ossature. Pour cette championnat, on va jouer pour préparer l'équipe à l'avenir parce qu'on est en retard pour avoir un titre. À l'avenir, on va organiser des stages à l'étranger. Moi, j'aime pas trop les longs. J'aime les tournois, on doit jouer beaucoup. Parce que pour moi, un stage de 2 mois, sans compétition, ça ne sert à rien.
C'est vrai, moi je suis d'accord là. Cette histoire de regroupement 1 mois, 2 mois où il n'y a pas de match, c'est vrai que ça ne vaut pas le coup. Je suis d'accord avec vous là. Vous venez par exemple en France, vous restez 10 jours, c'est pour faire, le handball c'est pour jouer 2-3 matchs, avoir du rythme dans les jambes, hein. C'est ce qu'on dit. Hein.
Oui. Parce qu'en Algérie, on prépare des stages avec 2 et 3 mois sans compétition. Normalement, les joueurs s'entraînent à leur club. Oui. C'est pas à l'équipe nationale.
Mais madame, pour que les joueurs s'entraînent dans leur club, il faudrait qu'il y ait une compétition. Le championnat est à l'arrêt depuis la Covid.
Normalement, c'est le point noir de les équipes nationales. On doit débuter le championnat. Normalement, elle va débuter.
Et qu'est-ce qu'on attend pour débuter ce championnat?
Parce que il y avait trop de problèmes. Les tournois de play-down n'ont pas joué, donc on doit s'organiser et après on va débuter le championnat prochainement, très rapidement, parce que les joueurs n'ont pas joué aucun match. C'est un problème, c'est un grand problème.
Ouais. Et ma dernière question, madame, c'est concernant votre projet. Quelle serait l'équipe qui va vous entourer? Et surtout, quelles seraient les directives et les initiatives que vous allez quand même donner pour la formation des petits clubs? Je peux vous citer un petit club, par exemple. Retenez bien, c'est l'Espérance de Sedouk, de handball, qui a été champion à maintes reprises d'Algérie et qui, par exemple, jusqu'à maintenant, n'a pas de salle d'entraînement. Ils sont en train de s'entraîner dans une voûte.
Quoi? Dans une voûte? Dans
et
une
c'est
voûte,
le ouais. problème... Le problème, c'est un problème national, c'est pas Sedouk uniquement. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas de salle. Donc, on va voir avec l'État, parce que c'est un problème d'État, c'est pas un problème de fédération. On doit parler de ce sujet avec l'État, Inch'Allah. Pourquoi pas les solutions?
Oui.
Pour la DTN ou bien les techniciens, ma porte est ouverte pour n'importe quel Algérien.
On va dire que j'ai compris. En fait, votre rôle, c'est que vous êtes ouverte, vous êtes à la discussion, au dialogue, etc. Et puis maintenant, il vous faut. C'est vrai que vous avez besoin d'un coup de main de tout le monde, parce que on va dire avec une main on n'applaudit pas. C'est sûr que si vous n'avez pas ce coup de pouce des professionnels du handball, mais également l'appui de l'État pour l'infrastructure, c'est sûr que vous ne pouvez vous pouvez mettre toute la politique que vous voulez, mais si vous n'avez pas les moyens derrière, vous ne pourrez pas avancer, c'est sûr.
Et on doit ramener les moyens.
Oui, ben oui. Et les moyens, c'est l'État, hein. Oui. Il n'y a pas de mystère. Hein.
C'est ouais. l'État, c'est les sponsors. Ouais. Il y a beaucoup de méthodes pour avoir l'argent.
Voilà.
C'est les compétitions aussi. Si jamais tu remportes une compétition, il y a de l'argent qui rentre.
Oui, bien sûr.
Si le handball revient à sa place, les sponsors revient. Ouais.
Et comment le handball pourrait revenir à sa place, madame la présidente?
Premièrement, on doit rassembler la famille handball, parce que c'est ça le vrai problème. Après, on va travailler sur tous les côtés. Chacun a sa tâche. Donc, si on organise, on va avoir, Inch'Allah, des résultats à l'avenir.
Madame Taleb Salim, encore une fois, j'ai deux questions à vous poser. Une concernant, est-ce que le ministre de la Jeunesse et Sport, qui est très actif et qui regarde beaucoup le sport, qui c'est un amoureux de sport en général, est-ce que vous êtes rapproché un peu de ce ministère-là par rapport aux élections d'abord, et quel est le projet de cette fédération-là qui arrive derrière? Moi, j'ai une deuxième question concernant l'équipe nationale garçon, parce que je sais que en équipe nationale féminine, il y a des techniciennes que je connais, ils peuvent vous poser les mêmes questions. Quelle a été la préparation ou quel est le programme en général de cette préparation avant le championnat du monde qui va débuter dans 2 mois, concernant les garçons bien sûr, et les filles? Vous avez le droit aussi de répondre si vous avez une réponse sur les filles.
De toute façon, pour l'instant, il y a pas un grand programme pour les deux catégories, parce que je t'ai dit, on est en retard. Donc, on doit attendre juste après la CAN ou bien le championnat du monde pour débuter notre programme. On va mettre les moyens, c'est la chose qu'on peut faire. Après, on va faire un programme avec l'entraîneur et on va essayer de mettre le maximum de moyens.
Est-ce qu'on a des matchs de prévu contre, et s'il y a des matchs contre qui?
Des matchs contre qui? Normalement, maintenant, on a deux matchs contre la Tunisie. On a un tournoi en Pologne, je ne sais pas, elle est encore au programme ou non, mais on a une invitation. Mais on a deux matchs contre la Tunisie.
D'accord.
Ouais, c'est déjà une bonne chose. En tous les cas, alors je ne sais pas si tu as préparé une question.
Oui, j'ai une dernière question, madame. Oui. Quel est l'objectif de cette sélection pour les prochaines compétitions à venir?
Sur la prochaine
sélection.
De la sélection algérienne. Quelle sélection?
Garçon
ou fille, peu importe, madame, les deux.
Les deux.
Quel est l'objectif que vous fixez?
Non, j'ai pas d'objectif. C'est juste pour participer et avoir plus de matchs.
Ouais, c'est ça. Et avoir du rythme dans les jambes. Ouais, j'ai compris.
Ouais. Le travail.
Je crois au travail.
Les choses au hasard.
Ouais. Non, mais c'est vrai.
Avec un travail, il y a des résultats. Après, maintenant, les équipes, on doit débuter le championnat. Les filles n'ont pas joué des matchs et les garçons aussi. Donc, on peut pas mettre un objectif dans ces conditions.
J'ai aussi un impératif. J'ai une dernière pause de réclame. Je la passe. Vous restez avec nous, madame la présidente. Merci de votre patience. Et puis, je vous récupère juste après pour finir cette émission.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport sur Beurre FM.
Allez, il reste un quart d'heure dans cette émission. Je vous rappelle, dans cette deuxième heure d'émission, 19h-20h, notre invité exceptionnel est Karima Taleb, présidente nouvellement élue de la Fédération algérienne de handball. On attend bien sûr... On attend la validation après le passage de l'IHF. On est d'accord, mon cher Salim. Donc, Karima Taleb, vous êtes avec nous pour cette dernière partie. Aujourd'hui, vous avez parlé de redémarrer le championnat garçons et filles. Alors, quand comptez-vous démarrer ces deux compétitions?
Oui, on doit redémarrer. Déjà, on est en retard. Normalement, le championnat en mois démarre en mois de septembre.
D'accord.
Mais on est très en retard. Donc, c'est notre priorité de redémarrer le championnat.
Et vous n'avez pas de date de fixer, par exemple?
Normalement, le 22 novembre.
Oui.
Parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas débuté, donc on a donné un peu de temps pour les clubs pour...
Se préparer.
Pour se préparer, oui.
D'accord.
Et entre-temps, on va jouer des matchs de Coupe d'Algérie de l'année passée, parce qu'on n'a pas joué la Coupe d'Algérie de l'année passée.
Oui, d'accord.
Donc, tu as vu le niveau où il est, Mohand, pour te dire tellement que... C'est pour ça, Nasser, il a mal quand il parle de l'époque, des l'ancienne génération. Oui. Il a vu que des grands joueurs, l'Algérie sortait ce genre de joueurs.
Moi j'ai eu la chance de vous voir, les gars. Hein. Je sais.
Toi, t'as connu notre génération.
Bien sûr, j'ai connu votre génération.
Moi, j'ai une question sur madame la présidente au sujet de la famille, la grande famille. Comment réunir la famille du handball? Parce que
on doit la réunir.
Oui, on doit la réunir. Mais connaissant un petit peu les antécédents et les problématiques qu'il y a. Je crois que la grande difficulté pour vous, hein, je me mets à l'écart de ça, c'est de réunir cette famille, de pouvoir vraiment mettre en place, quand on parlait de commission, de pouvoir vraiment que cette famille se réunisse pour qu'elle puisse vraiment se mettre réellement au travail, parce qu'aujourd'hui on n'existe plus déjà, au niveau mondial on n'existe plus, au niveau africain on est pratiquement Moi, j'ai vu les Jeux méditerranéens, j'ai vu les matchs, j'ai regardé l'équipe d'Algérie. Ça, quand je connais les joueurs qu'il y avait, quand j'ai vu ce qu'il y avait à une période, aujourd'hui, on a mal, hein, vraiment. On a été très bon, excellent, et là, aujourd'hui, et on sait que c'est lié à des problèmes de dirigeants qu'il y a eu, beaucoup de problèmes. Maintenant, est-ce que, madame la présidente, vous avez les, je vais pas dire les épaules, mais est-ce que vous pensez pas que c'est un combat qui va être très, très, très difficile à mettre en place?
Eh bien, bien sûr que c'est difficile, mais on va essayer. Mon avantage, je n'ai pas de problème avec personne. Donc, Inch'Allah, voilà. Je vais réunir tout le monde. Et ma porte est ouverte pour tout le monde. C'est moi, bien, je ne rentre pas dans les problèmes des autres. Moi, personnellement, je n'ai rien contre personne. Ça donc, Inch'Allah, je vais réunir la famille handball. Je vais mettre trop de commissions parce que le travail est dans les commissaires beaucoup plus, beaucoup plus.
D'accord.
Madame Taleb, déjà, Inch'Allah, les élections se confirment déjà. Qu'on aura cette déjà stabilité pour préparer les deux équipes, que ce soit les filles pour le championnat d'Afrique et les garçons pour le championnat du monde, parce qu'on est vraiment passé de l'autre côté. Maintenant, on part dans des coupes d'Afrique pour se classer troisième, quatrième, même cinquième, tant qu'on vit que on est qualifié.
On repart de loin, c'est les mains.
On repart vraiment, vraiment de loin. Donc, Madame Taleb, je crois pas qu'elle a une baguette magique. Hein.
Non.
Donc, déjà, son objectif premier, c'est de réunir l'équipe du handball. Concernant notre génération à nous, en tous les cas, je parle à mon nom, je connais pas mal de joueurs de notre génération qui peuvent aider l'équipe nationale. Ils ont toujours été disponibles pour l'équipe nationale. On n'a jamais fait appel à eux. Donc ces gens-là, si demain vous avez besoin de ce genre de personnes au sein de la fédération, vous pouvez compter sur notre génération. Je parle de cette génération parce que je les connais très bien et on en parle entre nous. Voilà.
Les Algériens connaissent cette génération.
À la belle, bien sûr. Heureusement, donné les résultats. Donc, mais je sais que c'est pas facile. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive comme ça, on croit que balak ou les radis c'est le kaga. Lazem n'aoud nous la ilat korotliet comme avant, inshallah. Ou Rabbi ou fakna, inshallah, fil mustaqbel, inshallah.
Inch'Allah, انا لوبجيكتيف تاعي سي سا باسكو نهار نتفاهموا كل نديروا ريزولطا باسكو ما يجيوش بالراي يخلونا نديروا ريزولطا لازم حنا اللي نديروا ريزولطا باش نديروا سات ريزولطا لازم نحيوا كاع الصراعات اكوتي
لازم
اي ابري نديروا دي ريزولطا ونعرف انا بلي كاين دي جون كاليفي جو سوي ابت بور لونترينور الجيريان parce que je sais qu'il y a des Algériens ou à l'étranger qui ont un grand niveau donc j'ai faire avec les capacités algériennes
Inch'Allah Rabbi Oufak Rabah Gharbi qui est le sélectionneur de cette équipe nationale qui est de ma génération et qui a gagné aussi c'est un très grand balleur donc je le félicite quand Inch'Allah il fera des bons résultats avec la sélection
si
la fédération lui permet de bien préparer cette équipe Inch'Allah Rabbi Oufra Inch'Allah ou Oufra Naga Inch'Allah.
Bon, Madame la Présidente, je tenais à vous. À vous... Oui, la certe,
après
vous. Oui, oui. Ah oui, bah, vas-y, profite.
Non, parce que j'écoutais Lies.
Oui, non, Salim.
Malis, Lies. On est à Italie, Bzaf, Lies. Il y a beaucoup de monde qui m'appelle Lies.
Bon, alors.
Salim, Lies. quand je l'écoutais comme ça, quand il parlait des anciens joueurs et des demandes, hein, ce qu'ils peuvent faire. Hein,
oui, oui.
Dans l'expérience du très, très haut niveau.
C'est du très haut niveau,
disons. Et quand on parle de ce qu'est l'expérience dans la formation, et Madame la Présidente en parlait tout à l'heure. Je dis, il serait judicieux vraiment de pouvoir les mettre réellement en place parce que ces gens-là ont quelque chose qu'on peut pas expliquer sur une table de radio ou comme ça à la télévision où on parle. C'est compliqué d'expliquer ce que c'est que des joueurs qui ont fait le très très haut niveau. Et quand tu as la chance dans ton pays d'avoir ces garçons-là, il faut t'en servir. Ce qu'au fond d'autres pays, ils s'en servent. Ils prennent ces anciens, ils les mettent en place, ils leur donnent les moyens. Bon, les moyens, on va te... Et par contre, ils leur donnent le moyen de travailler. Après, ces garçons-là, ils sont investis d'un projet, eux aussi vont donner. Et qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils vont donner ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est pas dans les formations, ça. C'est encore ailleurs. Et ça, ces contenus-là, ils sont très, très, très importants. pour l'éducation des enfants. Surtout aujourd'hui, avec le monde qu'on voit aujourd'hui, il est très important que ces garçons-là réintègrent le circuit de formation.
Alors, vous savez pourquoi, Madame la Présidente, alors Nassar Sanjak parle ainsi, parce que Nasser, déjà, il forme les entraîneurs ici en France dans le domaine du football. Ça veut dire que nous avons des handballeurs qui peuvent former des entraîneurs de handball pour l'Algérie.
Inch'Allah, pourquoi pas.
Voilà.
En plus, Nasser, il a entraîné en équipe nationale, c'était le coach de l'équipe nationale et au club. Ouais, ouais. Mais il n'a pas entraîné l'AMCO, c'est pour ça que je l'en veux un peu. Et...
En tous les cas, Madame la Présidente, je vous remercie d'avoir été disponible là pendant une heure. Vous étiez franche et puis on souhaite d'abord que cette élection soit validée par l'IHF. Ensuite, les choses sérieuses vont commencer, c'est-à-dire le chantier lui-même va commencer. Vous avez besoin de vous mettre au travail le plus rapidement possible.
Inch'Allah, mamie.
Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt sur l'antenne de BRFM, Madame la Présidente.
Merci, au revoir.
Au revoir. Voilà. Bon, alors, messieurs qui étaient là sur le plateau...
Comment explique-moi
Oui.
Bon, là, on ne peut pas dire... Comment une élection d'une présidente d'une fédération est destituée par le fait que les statuts ne sont pas en règle? Pourquoi ils font quoi, les mecs, là, côté? Ils font quoi, là?
Oui, bah, apparemment...
Le secrétaire général, c'est quoi, ça?
Donc, la pauvre, elle s'y retrouve un petit peu bloquée. Oui. Là, maintenant, visiblement, je pense qu'il y a des interventions, Voilà. Il y a des interventions qui sont arrivées, on va dire, d'en haut, comme on dit chez nous, pour valider cette élection. Puis voilà, après, on verra, comme on dit. Effectivement, si elle réussit, si elle réussit son pari de faire, faire jouer la Coupe d'Algérie de l'année dernière, qui ne s'est pas jouée, les play-offs et les play-downs du championnat, et faire redémarrer le nouveau championnat, là, je lui tiens mon chapeau. Aujourd'hui, tout est par terre, Nasser. Il n'y a rien.
Je sais.
Il n'y a rien.
Ouais. Donc, elle est motivée. Elle sait ce qu'elle... J'espère... Elle a beaucoup parlé en général.
C'est ça, en général.
Il faut faire ça, il faut faire ci. Après, voilà, il faut... Sur le terrain, c'est pas évident aussi. Hein. Il faut aller vers tous les wilayas. Moi, j'ai dit que les formateurs de chez nous, il faut qu'ils partent aussi dans le Sahara parce qu'on a... Masha'Allah, on a des gens avec un...
Oui.
Avec du... Comment on appelle ça? Physiquement, déjà, ils sont plus costauds.
Coach, il l'a toujours dit. Ça fait 20 ans qu'il le dit.
Bien sûr. Mais ces gens-là, il faut aller les voir. Ouais. Il faut mettre des gymnases là-bas, enseigner le handball à l'école, comme tu le disais tout à l'heure, Mohand. Et c'est très important parce qu'on voit aussi... quand je parle avec les anciens joueurs de l'Égypte, ils me disent que voilà, les formateurs et tout, ils vont dans ces régions-là pour aller, comme c'est un sport de combat et c'est un sport de contact, donc ils vont aller chercher un peu plutôt de la
des gars musclés, quoi.
Voilà, exactement. Donc
le potentiel, il est où? Il est en France? Oui, en Algérie, réellement.
Pour l'instant, les joueurs, ils sont mieux, on va dire, formés ici que là-bas, parce que il y a beaucoup, beaucoup. On forme plus personne là-bas depuis.
Il fallait le dire, c'est ça. Son orientation, elle, c'est aller chercher les résultats. On a
exactement.
Ça, c'est un deuxième objectif derrière la formation, mais c'est le haut niveau. Elle, faut l'orienter pour dire, voilà, oui, je vais chercher mes enfants. Elle l'a dit. C'est vrai qu'elle a dit oui, on va chercher les Algériens. Mais c'est des phrases à deux balles, ça. Ils sont là. Les formateurs, les éducateurs, les mecs qui vont faire le boulot. On va se tirer de ce qu'on fait. Et si tu ne le fais pas, les mecs là-bas en Algérie, ils vont te défoncer. Parce qu'ils ne vont pas accepter. Ils vont dire, oui, c'est ça. Oui, mais monsieur, mais nous, ils sont là, ils jouent, ils sont à des niveaux. Oh, tu vas gagner le match, tu vas aller en Coupe d'Afrique, tu vas faire les Jeux Olympiques. Tu fais rien. Les Jeux Olympiques en France, on n'y va pas alors en handball. On y va pas.
Non. Tu es mort. Non. Jeux Olympiques.
Ouais.
Non.
On est mort.
Non, on est mort.
Ça y est, oui.
Bah on est.
C'est pas le plus.
Et le championnat du monde, on s'est qualifié en étant.
Cinquième, je crois, non?
Cinquième ou quatrième, je crois. Ouais. Avant, nos places étaient. Tu la connais, hein. C'est première, deuxième.
Ouais.
Quand tu fais une troisième place, si t'as raté ta compétition.
C'est clair.
C'est plus le cas. Maintenant, troisième, quatrième, cinquième place. Ça passe.
Que des trucs comme ça.
Ouais, exactement.
Le haut niveau, ce qu'il y avait avant, pour les remettre à ce qui est, parce qu'eux, ils vont te faire comme si ça n'a pas existé. C'est comme ça qu'ils font l'Algérie.
Exactement.
Ils t'occultent de l'histoire. Ça, tu parles pas. si tu dis pas ce qu'il t'a fait, si tu répètes pas ce que tu as fait, les gens vont dire, ah, c'est qui lui? Ah, bon, il a gagné, hop, il recule. Mais sinon, là, la dame, il va te bouffer comme si t'étais rien.
Bien sûr.
Et en Algérie, on est des champions de l'obscurantisme. Voilà, non, il n'y a rien eu avant. Même le gouvernement, il fait ça. Hein.
Oui, non, mais.
Là, il fait, ouais.
Non, mais, alors, ce qui est intéressant, parce que moi, je le vois, mine de rien, pour peu, quel est l'écoute des franches? Attention, parce que, comme on dit, les discours, ils sont faciles à prononcer.
Ouais.
Mais si derrière, tu n'as pas les appuis nécessaires, elle a utilisé un mot que j'ai aimé, hein, mine de rien, c'est un travail de commission partout. Que ce soit des commissions régionales, quand je dis des commissions, c'est comme des espèces de direction technique régionale ou des trucs comme ça. Tu sais, Nasser, pour les. Ouais. Ne serait-ce que déjà les compétitions interclubs, on ne les a pas.
Ouais.
Inter-Wilaya, on ne les a pas.
Ouais.
C'est ça qui manque. On l'a pas, ça.
Ça a disparu.
Ça a disparu.
Ça a toujours existé, mais ça a disparu. On est tous passés par là. Donc, on avait une sélection oranaise.
Oui.
Après, on montait en ligue. Et après, la ligue, c'est nationale. Et après, l'équipe nationale, cadet, junior, espoir, ça dépend.
C'est exactement ça.
Donc, c'est en fait, ça qui...
Tu es lié à la problématique des infrastructures et de la volonté politique. Tant que la volonté politique n'apparaît pas, réellement, nous, voilà, si le président de la République dit « Moi, je veux... » une politique technique nationale dans tous les domaines du sport, là. Je veux le travail maintenant. Vous me sortez le bilan, le projet, je le veux là, sur mon bureau. Là, tu vois, ça va pas être la même. Mais tant que t'as pas ça, parce que tout va avec.
Oui, ben oui,
la carte bleue qui va
avec.
Oui,
je suis d'accord.
Quand toi, tu veux monter des salles, tu dis, voilà, dans chaque wilaya, j'ai construit cinq salles de handball.
Oui.
C'est que du béton, hein.
Oui, bien
béton,
oui.
Du plastique et tout, tu mets par terre. Puis ils en font 5 par wilaya ou 5 par ville. Là, tu vois, comment c'est quelque chose de sérieux? T'as vu les espaces de terrain qu'il y a là-bas? Moi, je l'ai fait deux fois.
Oui.
Quand on était à Oran, là-bas, je regardais la roue, regarde-moi l'espace qu'il y a. Et dès que t'arrives à Oran, fou.
Oui.
Et chacun veut, non, on s'en fout, on va se mettre à 10 bandes de rang, t'as vu? 10 kilomètres. Tu as vu la salle, là?
Ouais, bien sûr, j'ai été voir la finale avec, Sofiane Belimem, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale.
Ah, je t'ai pas vu, moi.
Si, j'étais là-bas.
En Asser.
Si, j'ai vu. Ouais.
J'étais dans la tribune, là. Tu m'as vu, alors?
Ouais. Non, moi, je t'ai pas vu.
Moi,
franchement, non, pas du tout. En plus, ils m'ont même pas laissé regarder le match. J'ai commenté un match sur Canal Algérie ou une chaîne de chez nous.
Télé, toi.
Donc, j'étais parti pour regarder le match, la finale, comme invité.
Ouais.
C'est Benjamin, d'ailleurs, que je le souhaite un bon rétablissement, qui était un petit peu malade. Donc, c'est lui qui nous a un peu, pris en charge là-bas, avec Sofiane, On a regardé deux belles finales, filles comme garçons, l'Espagne contre l'Égypte et l'Espagne Serbie, je crois, en filles.
Ouais.
C'était magnifique. Je suis très content de voir les infrastructures qu'il y a dans ma ville natale maintenant. Je suis très très content et j'espère qu'ils vont les préserver pour nos enfants, inchallah, pour nos arrière-enfants, inchallah.
Merci, coach.
Juste quelque chose de
précis. Rapide.
Je tiens juste à remercier tous les joueurs du MC Paris qui nous écoutent et qui vous écoutent surtout parce que c'est une équipe de foot qui m'ont invité hier. J'ai passé une très très belle après-midi avec eux. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt, Inch'Allah.
Merci, à bientôt sur l'antenne de Beurre FM.